Nous lisons en Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. En effet, aujourd'hui, c'est la fête du travail. Alors, c'est parti, on va essayer de fêter le travail, mais chrétiennement. Moi aussi, j'aurais tendance à penser que la meilleure manière de fêter le travail, c'est de ne pas travailler ou de réclamer à travailler moins. Mais en réalité, personne n'aspire à strictement rien faire de sa vie. Nous voulons tous être actifs, productifs. Donc voilà le dilemme de notre époque, notre monde, c'est que on veut travailler, mais on ne veut pas travailler. Vous êtes malheureux sans un travail, et vous êtes malheureux avec un travail. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous tournons vers le livre de Genèse pour nous aider à comprendre notre monde et notre vécu, nous disant que ce livre retrace nos origines, les origines de beaucoup de choses, l'univers, l'être humain, le mariage, le mal, et ce matin le travail. Et en comprenant nos origines, nous pouvons réussir nos destinées. Et ce matin, nous allons voir l'origine du travail. Il faut reconnaître que les premiers chapitres de Genèse impactent encore notre quotidien, à nous tous, croyants et incroyants, puisque c'est ce texte qui fixe la semaine de 7 jours, avec un jour de congé. La Révolution française a essayé de passer à une semaine de 10 jours pour s'affranchir de ce rappel constant, ce rappel hebdomadaire de l'influence biblique sur la société. On a essayé la semaine de 10 jours, ça n'a pas marché. On est revenu vite à la semaine de 7 jours. L'avantage de la vérité, c'est que ça cale avec la réalité. On essaie de s'affranchir de la vérité, mais il faut toujours faire face à la réalité. Mais ici, dès le premier chapitre de Genèse, comme nous avons étudié il y a quelques semaines, nous apprenons que notre vie sera basée sur un cycle de travail et de repos, puisque la semaine de création, Dieu l'a fait comme ça, et ça devient un schéma pour notre vie. Alors évidemment, cette question du travail n'est pas une petite chose pour vous tous, pour nous tous. Le travail, ce serait l'activité principale de votre vie, quel qu'il soit. Jeune, le travail, c'est l'école, les études, et après, le travail, c'est professionnel, mais vous allez passer la plupart de votre vie à travailler. C'est-à-dire, vous passez plus de temps au travail dans la semaine, peut-être qu'avec votre famille. En tout cas, hormis des vacances et tout ça. Une chose est sûre, vous passez plus de temps au travail qu'à l'église. Mais on ne va pas vous en reprocher, c'est bien, c'est normal. Alors évidemment, votre famille, votre foi peuvent avoir la priorité dans votre cœur, mais au regard des heures consacrées à telle activité, c'est le travail qui passe en premier. Peut-être plus que votre famille, plus que votre église. Alors ça veut dire que c'est quand même une occupation majeure pour nous tous, pour vous tous. Et pourtant, c'est un domaine qui semble disjoint, on va dire détaché, parfois incompatible avec la foi. Vivre ma foi dans mon église, ça d'accord, on sait faire ça à peu près. Vivre ma foi dans ma famille, d'accord, je vois un peu ce que ça peut donner. Peut-être c'est pas évident, mais voilà, je prie à table, je lis la Bible à mes enfants. Donc vivre ma foi dans ma famille, ça je sais faire. Vivre ma foi dans mon église, ça je sais faire. Vivre ma foi dans la nature, quand on fait une sortie Ascension dans les Pyrénées, voilà, ça je sais vivre ma foi, exprimer la reconnaissance, ça je sais faire. Mais vivre ma foi au travail, ça ressemble à quoi? Alors, parfois on dit, ok, si je suis pasteur, je vois à peu près ce que c'est de travailler pour Dieu, de travailler pour la gloire de Dieu. Mais on n'est pas tous pasteurs dans la vie. Comment être un électricien chrétien? Comment être une secrétaire chrétienne? Comment être un banquier chrétien? Telles sont les questions que vous vous posez constamment. Et vous avez peut-être entendu différents conseils, différentes manières d'intégrer votre foi et votre travail, surtout dans un monde peu croyant. Ce n'est pas toujours évident de vivre sa foi dans son travail. Dans son livre « Dieu dans mon travail », le pasteur Tim Keller reconnaît qu'on entend différentes voix, différents conseils sur la manière d'intégrer la foi et le travail. Alors il fait une liste que je vais afficher dans quelques instants. Il fait une liste de toutes les manières que peut-être on vous a dit de servir Dieu dans votre travail. Et il y a différentes idées. Donc voyons comment servir Dieu dans son travail. La manière de servir Dieu dans mon travail, c'est d'avancer la justice sociale et la cause humanitaire dans le monde. Et là, on va mettre l'accent sur voilà, le bien que certains peuvent faire à apporter la justice. Mais toujours faut-il travailler pour une association qui s'occupe peut-être des réfugiés ou peut-être vous travaillez pour la mairie et vous aidez les gens à trouver une situation stable. Et tout ça, c'est noble. Mais si on travaille pour Airbus, comment j'avance la justice sociale dans ce monde? Donc, autrement, on dit la manière de servir Dieu dans son travail, c'est d'être intègre et d'évangéliser ses collègues. C'est comme ça que vous vivez votre foi au travail. Je sais que moi et mes confrères pasteurs, dans les milieux évangéliques, on a surtout mis l'accent ici, en disant c'est comme ça qu'il faut être chrétien au travail, surtout évangéliser vos collègues, les inviter à toutes les réunions d'église, tout ça. Après, est-ce que c'est le conseil qu'on aurait donné à Adam dans le jardin d'Éden pour travailler à la gloire de Dieu? Pas sûr que toute l'intégration de la foi et du travail se limite à simplement évangéliser ses collègues. Et vous savez vous-même que ce n'est pas toujours évident dans le quotidien. Parfois, ce n'est même pas le moment de tendre un traité à un collègue. D'autres fois, c'est l'occasion, mais ok, sinon c'est peut-être simplement de faire du bon boulot. C'était un peu le verset de l'Ecclésiaste, ce que ta main trouve à faire, fais-le de toute ta force. Et quel que soit le métier, on peut viser l'excellence dans ce métier, et c'est comme ça qu'on glorifie Dieu, qu'on sert Dieu, et on fait simplement un bon boulot. Très bien. D'autres vont dire, servir Dieu au travail, c'est créer la beauté qui reflète la gloire de Dieu. Dieu même est créateur, il crée un monde beau, harmonieux, et donc servir Dieu au travail, c'est surtout créer la beauté. Alors ça plaît aux artistes, aux musiciens, à des gens qui sont dans la production, mais encore, est-ce que ça s'applique à tout le monde? Et comment créer la beauté avec des fils électriques? Comment créer la beauté avec les finances? Pas toujours évident de répondre à ces questions. La liste continue. Servir Dieu dans mon travail, c'est surtout être reconnaissant et joyeux en toutes circonstances. Les autres font grève, moi j'ai le sourire, je suis joyeux, c'est comme ça que je sers Dieu dans mon travail, peut-être. Servir Dieu dans mon travail, c'est surtout faire ce qui nous apporte la plus grande joie et de suivre notre passion. C'est vrai que Dieu nous a donné des dons, parfois la société dicte telle voie, il faut faire tel travail, mais on n'aime pas ce travail, on est malheureux dans ce travail, et d'après nos personnalités, d'après nos dons, nous aspirons à faire notre travail, peut-être accepter un salaire moindre, mais faire ce qu'on aime. Est-ce que ce n'est pas une manière de servir Dieu et de reconnaître qu'il nous a créé chacun avec différents dons Et il nous a placés dans ce monde pour aussi poursuivre notre passion. C'est une manière de servir Dieu. Et enfin, une manière de servir Dieu au travail, c'est de gagner un maximum d'argent afin de pouvoir être généreux et utile aux autres. Alors, ça semble peut-être égoïste, mais finalement, un PDG chrétien, il va vouloir faire réussir sa boîte. Et imaginez le bien qu'il peut faire. Il va pouvoir à des employés, il va pouvoir être utile à sa famille, il va pouvoir donner à l'Église. Donc, le but en soi, c'est noble et louable. Il peut très bien glorifier Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et quelle est la manière de servir Dieu au travail? Et dans son livre... Dans ce livre « Dieu et mon travail », il dit que c'est vrai que nous avons tendance de mettre l'accent sur une des choses et dire « c'est surtout cette manière de travailler et de glorifier Dieu dans mon travail ». Mais il faut être prêt à reconnaître qu'il y a certainement différentes manières de servir Dieu dans mon travail, en fonction du métier, en fonction de nos dons, en fonction des circonstances. Toutes ces choses que nous venons de voir peuvent être des manières de servir Dieu au travail et de le glorifier. Mais revenons donc aux origines du travail en Genèse. Et nous croyons que ici, Genèse 2, 1, 2, 3, et notamment ce passage que nous avons lu, Genèse nous donne une vision du travail qui est noble, mais aussi réaliste, et qui peut vraiment être salutaire pour notre société encore aujourd'hui, avec toutes ces questions sur le travail. Ça reste le sujet majeur de société, le travail, l'économie. Et nous croyons que Genèse peut encore apporter des solutions à nos questions. Alors, tout d'abord, nous allons voir la valeur du travail, l'excellence du travail. Ensuite, la pénibilité du travail. Et enfin, comment s'épanouir malgré tout dans le travail. Donc, la valeur du travail, c'était pourquoi voulons-nous travailler? Pourquoi voulons-nous être actifs dans la vie? Deuxième point, la pénibilité, pourquoi nous ne voulons pas travailler? Et enfin, comment s'épanouir malgré tout. Tout d'abord, voyons l'excellence du travail. Si nous revenons au Genèse chapitre 3, les versets que nous avons lus, verset 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. Oh, » Il faut reconnaître que le travail n'est pas en soi une malédiction. Dans notre texte, Dieu prononce une série de malédictions et de jugements. Et c'est vrai que le serpent est maudit. Directement, le serpent est maudit. Verset 14. « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Mais dans les autres, dans la suite, Dieu s'adresse à la femme et Dieu s'adresse à l'homme. Mais Dieu ne maudit pas la personne. Dieu ne maudit pas l'homme et Dieu ne maudit pas la femme. Dieu maudit les domaines qu'ils doivent gérer. Mais contrairement au serpent, ce n'est pas directement la personne qui est maudite. Donc la malédiction, vous le reconnaissez, la malédiction n'est pas, la malédiction que Dieu prononce à Adam, n'est pas « désormais tu vas devoir travailler, désormais tu vas devoir cultiver le sol ». Ce n'est pas ça la malédiction. Adam avait déjà la mission de cultiver le sol avant la chute. Et nous voyons en Genèse chapitre 1 et 2 que Dieu a créé un monde, il a créé un monde bon et parfait, mais le monde qu'il a créé, cette planète qu'il a créée, qu'il a confiée à l'homme, cette planète était dans un état brut, on va dire. Adam a reçu un monde en voie de développement. Et il avait la mission de l'assujettir, de la rendre féconde, de la cultiver. Et ça apparaît clairement en Genèse 2 que l'homme a été créé pour le jardin, et le jardin a été créé pour l'homme. Donc, les deux vont ensemble. Le verset précise que le sol ne produisait pas encore du fruit parce que l'homme n'avait pas été encore créé. Dieu crée Adam et puis crée un jardin pour y mettre Adam. Et ça, c'est fort. Le sens ultime de la vie n'est pas le boulot, mais le travail donne un sens à la vie. Nous avons été aussi créés pour ça. Et puis, comme ça a été mentionné déjà dans la présidence, Dieu lui-même était le premier à travailler. Dieu, le Dieu parfait, le Dieu bon. C'est Dieu même, nous voyons dans le récit de la création, Dieu même a travaillé pendant une semaine. Chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Si le mot œuvre, c'est ouvrage, mais c'est activité professionnelle, travail. Donc, Dieu même travaille. Le travail, c'est une activité divine. Alors, le travail n'est pas une chose mauvaise en soi, puisque Dieu même participe. Dieu même travaille. En plus, dans le récit de Genèse 2, Dieu lui-même, on va dire, remonte ses manches en quelque sorte, il met ses mains dans la poussière pour créer Adam. Comme nous avons dit la dernière fois, Dieu se salit les mains, si on peut parler ainsi, même s'il n'y avait pas vraiment la saleté dans ce sens. Mais Dieu met ses mains dans la poussière pour former Adam comme un potier met ses mains dans l'argile. Et ainsi, même le travail manuel, en quelque sorte, est anobli par l'activité divine. Jésus était charpentier, on s'en souvient aussi, un travail manuel, mais digne de la divinité, digne de Dieu lui-même, Jésus le Fils de Dieu. Et ça, cette vision du travail, la valeur, l'excellence du travail, c'est une vérité biblique que notamment la réforme protestante a retrouvée. Et la réforme protestante a eu un grand impact sur la vision du travail. Aujourd'hui, les pays avec un héritage protestant manifestent des signes économiques grâce à l'impact de la vision biblique sur le travail. Et l'apport de la réforme, c'était de dire tout travail, un travail séculier, comme tout travail a de la valeur aux yeux de Dieu. Bien sûr, pas un travail illicite, un travail illégal, mais sinon, tout travail a une valeur. Parce qu'à l'époque, on avait distingué, il y a la tendance de séparer, de diviser entre des bons travail, des travail nobles, et puis des moins bons travail. Et à l'époque médiévale, on faisait la différence entre le clergé, c'était très noble de travailler pour l'Église, les prêtres et les moines, et puis il y avait les autres, les paysans et tout ça, ça c'était un moins bon travail. Et la réforme a dit non, c'est devant Dieu, tout travail, que ce soit cultiver la terre comme fait le paysan, ou que ce soit s'occuper de l'enseignement biblique, c'est devant Dieu, il y a autant de valeur. Et tout comme la tendance médiévale était de séparer le travail entre ce qui est bien et ce qui est moins bien, il y a une tendance moderne aussi à faire quand même une division du travail entre ce qui est bien et ce qui est moins bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu quand même l'idée qu'un travail intellectuel est beaucoup mieux qu'un travail manuel, ou que le travail manuel ne serait pas du tout intellectuel. Ou bien même, on regarde rapidement, nous, les salaires. Quelqu'un qui gagne moins, un peu dans la pensée des gens, quelqu'un qui gagne moins a ce qu'il fait, ce qu'il est, et a moins de valeur que quelqu'un qui gagne plus. Mais la vision du travail, la vision de la Bible, résiste à cette tendance de diviser entre un bon travail et un moins bon travail, puisque tout travail est digne devant Dieu. Et c'est vrai qu'il nous a donné chacun des dons différents, il nous a donné chacun des passions différentes, et une manière de servir Dieu, c'est de reconnaître ces choses et de faire ce qu'on veut faire, ce qu'on pense être capable de faire, ce qu'on aime faire d'après nos dons, et reconnaître la grande diversité des appels, des vocations dans la vie. Donc ça, c'est la valeur, l'excellence du travail qu'on trouve même avant d'arriver à la chute. Adam avait cette mission de cultiver la terre, de travailler, et ça pouvait être un grand épanouissement pour lui. Mais les choses n'ont pas duré longtemps dans cet état édénique, et vite, il y a la malédiction qui tombe, et nous voyons la pénibilité du travail. D'après la Bible, le problème principal du monde et de l'homme, c'est la rupture de la relation avec Dieu. La rupture de la relation avec Dieu crée tout le reste des problèmes, rupture des relations avec les autres hommes, l'être humain, et puis la rupture avec la relation avec d'autres mondes, notre planète, les sphères que nous devons gérer. Et cette rupture avec Dieu entraîne des conséquences dans tous les domaines. Et ça, c'est la vision de la Bible. Alors que c'est vrai que le monde voit les problèmes et cherche d'abord à régler les problèmes, mais oublie que le problème principal, c'est notre relation avec Dieu. Si on veut réparer les problèmes, il faut d'abord réparer celle-là. Et voyons la malédiction qui a été prononcée, pas sur Adam lui-même, mais en tout cas sur le domaine qu'il devait gérer, notamment le sol. Et verset 17 dit, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Vous voyez, Adam avait mangé le fruit. Donc, la conséquence va être un peu dans le même ordre. Il va devoir peiner pour manger à partir de ce moment-là. Dans le jardin d'Éden, il y avait tous ces arbres fruitiers. C'était des délices, c'était merveilleux, c'était une facilité pour manger, pour cueillir. Et maintenant, il va être chassé de ce jardin et devoir peiner pour manger sa nourriture. Adam n'avait pas gardé et cultivé le jardin, comme Dieu lui a demandé de faire. Alors, la conséquence, c'est que ce jardin, ce sol, va se rebeller contre lui. Il va avoir du mal à le gérer. Alors, c'est vrai que dans ces versets, c'est l'homme qui est directement visé, Adam. Ève a déjà eu un peu la sentence sur tous les domaines de l'enfantement, de l'accouchement, relations dans le couple. Mais je pense que nous devons reconnaître que les conséquences prononcées à l'homme affectent la femme, affectent son aide complémentaire, tout comme les conséquences prononcées à la femme affectent l'homme, affectent le couple. Nous sommes tous affectés par toutes les malédictions prononcées. Donc, c'est pas que les choses vont se passer à merveille pour les femmes au travail et que les hommes vont peiner. Vous savez que c'est pas comme ça. Tout le monde vit des ronces et des épines, quel que soit le travail, qu'on travaille à l'extérieur, qu'on travaille à la maison, tout le monde vit cette peine. Alors évidemment, vous savez traduire ça, les ronces et épines, c'est vrai ça, les agriculteurs sont sujets à toutes sortes de défis de la nature. Parfois, c'est assez précaire. C'est quand on entend parler des personnes qui ne sont pas contentes des situations ou des manifestations, il y a souvent tout le domaine de l'agriculture parce qu'effectivement, leur domaine est peut-être particulièrement touché par la chute avec toutes les précarités qui arrivent. Mais nous reconnaissons que ces ronces et ces épines sont symboliques de tous les problèmes que l'on rencontre au travail, les bugs informatiques, le chômage, le stress qui vient des dates limites, des collègues désagréables, des accidents du travail, des crises économiques, tout ça est dans la peine, dans la stress, la fatigue qu'entraîne le travail pour nous. Même le meilleur travail au monde, même si vous aimez beaucoup votre travail, je vous le souhaite, même le meilleur travail au monde n'est pas sans des aspects pénibles, vous le savez. Donc ça c'est le travail, c'est par décret divin que le travail sera pénible tous les jours de notre vie. C'est-à-dire on ne peut pas se rebeller contre Dieu et vouloir vivre quand même dans le paradis. Donc Dieu est presque proactif en rendant le travail pénible pour nous rappeler de notre rébellion, de notre éloignement de lui. Mais il y a un autre problème, à part la peine et la fatigue, il y a un autre problème qui est presque pire que la sueur et la peine. Verset 19, il continue, « Tu mangeras du pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. Dans l'hébreu, le mot terre et le mot poussière sont très proches, sont synonymes. Pour nous, poussière, ça évoque une couche fine sur les meubles, mais il faut voir poussière comme la terre aussi. Donc, Adam a été pris de la terre, pris de la poussière, il va retourner à la poussière, retourner à la terre. Et c'est ça qui est terrible, c'est ce qui est fort. Il dit à Adam, tu vas manger de la terre. Tu vas devoir peiner pour manger, pour sortir de la nourriture de la terre. Et un jour, c'est la terre qui va te manger. Tu vas devoir manger de la terre, mais de toute façon, un jour, la terre va te manger, toi et toute ton œuvre. Et c'est la réalité. Tout ce que vous faites aujourd'hui au travail sera couvert par la poussière en très peu de temps. Il y avait des choses qui sont parties au vide-grenier. Pas mal de choses de qualité qui ont été fabriquées un jour par quelqu'un. Mais parfois dans un grenier, ça prend la poussière. Après, il y a la valeur, c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros pour quelqu'un qui passe. Mais pour celui qui l'a conçu, est-ce qu'il aimerait savoir que toute son œuvre, tout ce qu'il a fait, a pris de la poussière? Et puis, c'est, au moins ça part dans le grenier, et d'autres ça part à la benne. Mais tout ce que vous faites partira à la benne. Voilà pour vous motiver demain matin, pour faire un bon boulot. Tout ce que vous faites sera couvert de poussière et sera mangé un jour par la poussière. Et c'est la grande réflexion de l'Ecclésiaste, ces versets que nous avons lus ce matin. Tout est vanité. Tout le travail, tout l'argent qu'on peut amasser, toutes les choses qu'on peut construire, vous savez très bien que dans peu de temps, ils seront obsolètes. Ils sont oubliés dans un grenier où ils seront en train de décomposer à la décharge. Tout ce que fait l'homme est oublié et défait par la poussière, y compris son corps. La poussière finit par défaire notre corps qui a servi tant à travailler. Et c'est ce sentiment qui fait partie de la malédiction, qui fait partie de la pénibilité du travail, ce sentiment parfois que vous avez, que nous avons, de ne pas servir à grande chose au regard de l'éternité, au regard du monde entier. Je vais travailler tous les jours pendant 30 ans et au fond, à quoi bon? J'aurais fait gagner à une entreprise quelques euros de plus, mais est-ce que c'est ça la vie? Vous voyez la vanité, si un ecclésiaste était au moins honnête en disant, oh, regarde, Salomon a essayé, il a dit, j'ai construit des grandes œuvres, des grands bâtiments. Aujourd'hui, ça se visite en ruine, plus ou moins. Et lui-même a dit, c'est quand même vanité tout ça, parce qu'on meurt et puis tout part. Qu'est-ce qu'on fait de cette peine, de cette vanité, que si on est honnête, on le sent parfois. Parfois, l'homme, il se rebelle contre ce verdict de Dieu. Il se dit, voilà, quand même, par mon travail, je peux me racheter, par mon travail, je peux me sauver, par mon travail, je peux devenir en quelque sorte immortel. Par mon travail, je peux me donner une sécurité définitive, une sécurité éternelle. Par mon compte bancaire, par mon salaire, par mon travail, je peux me donner une sécurité. Et c'est ce qu'on voit, le constat de la société aujourd'hui, c'est cette recherche d'une sécurité au travail, c'est le summum de tout pour les gens, parfois, parce que c'est ce qui permet de... Voilà, au moins se dire que tout n'est pas vanité. Si j'ai un travail, si j'ai de l'argent qui entre, ça me donne une sécurité ultime, une sécurité éternelle. Mais ceux qui vivent uniquement pour le travail, ceux qui essaient de se racheter par le travail, ceux qui essaient de se sauver par le travail, vous savez que ceux-là finissent par se détruire. Ils détruisent leur santé, ils détruisent leur famille, ils détruisent leurs collègues autour d'eux parce qu'ils doivent toujours écraser les autres pour monter l'échelle. Ceux qui vivent uniquement pour le travail se détruisent. Donc, le travail, ce n'est pas une bonne manière de se racheter. On ne peut pas, en travaillant, en œuvrant, revenir à Éden. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça? Eh bien, comment s'épanouir malgré tout dans le travail? Vous savez, toute douleur et toute peine a ses avantages. Il y a des choses qui font mal, mais ça nous est utile. Quand on touche la plaque du four et que c'est chaud et que ça fait mal, c'est utile. Donc, la douleur et la peine que Dieu prononce ici, c'est vrai, c'est une conséquence, c'est un châtiment, mais il y a une utilité pour notre vie, à nous faire agir. Et Dieu utilise ces choses pour nous ramener à lui finalement, nous ramener au paradis. C'est ce que nous allons voir pour terminer. C'est vrai que ce passage est triste. Un des passage le plus triste de la Bible, Adam et Ève chassés du jardin. Débrouillez-vous en dehors du paradis. La rupture, la séparation avec Dieu est prononcée et ils s'en vont tristement. L'expulsion du jardin, le paradis perdu, tout ça c'est triste. Mais quand on regarde les détails, il y a quand même de l'espérance. Donc juste après avoir reçu sa malédiction, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Déjà là, j'aime bien le répéter, Adam, juste après avoir reçu la malédiction, la sentence de mort, il appelle sa femme, qui n'était pas jusque-là, qui n'avait pas le prénom Ève, c'était Isha, jusqu'à là, et donc il donne un nouveau nom à sa femme, Ève, qui veut dire vie. Alors, quelque part, Adam fait le choix de l'espérance, de mettre l'accent sur la vie et pas sur la mort. Et malgré l'expulsion, il fait le choix de la foi et de l'espérance. Ensuite, Dieu leur donne des habits. Dans verset 21, l'Éternel Dieu vit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il les en revêtit. Il me semble que par là, Dieu montre qu'il reste fidèle et il va quand même pourvoir à tous les besoins. Maintenant, ils ont besoin de vêtements. Et Dieu, la première chose que Dieu fait, c'est de pourvoir à ses besoins. Et nous avons plein de promesses dans la Bible que Dieu, à partir de ce moment, Dieu va quand même dans ce monde déchu, Dieu va prendre soin des siens, il va prendre soin de ses enfants, il va prendre soin de toute personne qui se confie en lui, il va prendre soin. Et Jésus a clairement dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtus, de ce que vous allez manger. Votre Père Céleste connaît vos besoins et il va les gérer, puisqu'il habille les lys des champs, il va vous habiller aussi. Et ce que Dieu a fait pour Adam et Ève, ce qu'il fait pour toutes les générations successives des personnes qui cherchent en lui le secours et l'aide et l'espérance, il pourvoit à nos besoins. Et le travail, il le fait. Nous sommes tous là ce matin, nous pouvons rendre grâce pour la manière que Dieu a pourvu à nous, à notre famille. Vous êtes là, vous êtes habillés, vous avez mangé ce matin probablement. Dieu vous donne toutes ces choses. Il le donne par le biais de votre travail qui remporte un salaire. Et ce salaire, vous pouvez le traduire dans le vêtement et la nourriture. Mais c'est une manière de s'épanouir au travail. C'est-à-dire, Dieu me donne le travail, Dieu me donne la force de travailler et Dieu me permet de nourrir ma famille. Même si je n'aime pas mon travail, j'aime ma famille. Alors, je continue et je vois que Dieu est fidèle. Et donc, on peut vivre dans la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est épanouissant. La reconnaissance est une chose épanouissante quand on y vit constamment. Mais encore, les bénédictions continuent. Il faut voir ces malédictions aussi comme des bénédictions. Parce qu'en verset 22, l'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Donc, il le chasse du jardin pour que Adam et Ève ne mangent pas de l'arbre de vie. Alors, ça fait réfléchir pourquoi Dieu fait ça. Mais dans l'état que Adam et Ève se retrouvent, c'est-à-dire une mort spirituelle, une séparation avec Dieu, comme Dieu l'avait dit, dans cet état, il ne serait pas avantageux de devenir à ce moment-là des êtres immortels, des êtres immortellement déchus. Ce serait affreux. Donc Dieu les sache du jardin, il impose une mortalité, il coupe l'accès à l'immortalité, puisque dans cet état déchu, ce ne serait pas une bénédiction, ce serait même affreux d'être immortellement déchu et séparé de Dieu. Ça, c'est Steve Jobs qui dit ceci. Vous connaissez le fondateur Apple qui est mort il n'y a pas si longtemps. Il a dit, la mort est la meilleure invention qui soit. Lui qui a inventé iPhone et tout. Hein. La mort est la meilleure invention qui soit. Me rappeler que je serai bientôt mort, c'est l'outil que j'ai trouvé le plus utile pour m'aider à prendre les grandes décisions de la vie. La mort, c'est la meilleure invention qui soit. c'est l'outil le plus utile que j'ai trouvé pour m'aider à prendre les grandes décisions dans la vie. Ça, c'est Steve Jobs qui dit que la mort, c'est la meilleure invention. Donc, dans un sens, cette mortalité est une bénédiction parce que ça quand même met fin à notre état déchu. Il y a toujours un débat sur l'âge de la retraite. Mais au moins, soyons reconnaissants qu'on n'est pas en train de débattre si c'est 1000 ans ou 2000 ans. C'est quelques années, mais imaginons que vous devez supporter votre patron désagréable pendant 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, parce qu'on est tous immortels, ce serait quand même... Donc, une mortalité, cette vie courte, vue comme ça, devient presque une grâce de Dieu. Il ne veut pas nous laisser dans l'état déchu immortellement. Et donc, il bloque l'accès à l'arbre de vie tant que Adam et Ève sont dans un état pécheur, dans un état séparé de Dieu. Et puis, donc, le verset termine ainsi. « C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Et donc, Adam est chassé, et maintenant il doit cultiver la terre. Il y a ces chérubins gardiens du jardin d'Éden, du sanctuaire de Dieu, et il ne peut plus y revenir. Or, pour les premiers lecteurs qui ont lu ça, c'était les Juifs dans le désert, avec Moïse sur le point d'entrer dans le pays promis. Et pour les premiers lecteurs, ces chérubins gardiens de l'arbre de vie, ça les fait penser à quelque chose. Ils ont déjà vu ça quelque part, ils ont vu ça dans le tabernacle. Les rideaux du tabernacle devaient avoir des chérubins artistiquement dessinés sur les rideaux. Et puis, au-delà de ces voiles, de ces rideaux qui fermaient l'accès au sanctuaire, au lieu saint, il y avait l'arbre, le chandelier, qui était sculpté en forme d'arbre, ce chandelier lumineux, comme un arbre de vie, était dans le lieu saint, avec ses rideaux, avec des chérubins qui cachaient le chandelier et l'arche. Et même sur l'arche, il y avait des chérubins avec les ailes qui veillaient sur la sainteté et la gloire de Dieu. Alors les Israélites, ils voyaient ça, c'était leur quotidien, ce tabernacle, ces rideaux. Et donc eux, ils connaissent ça, ils lisent ce passage avec les chérubins protecteurs qui gardent l'arbre de vie. Et c'était un enseignement, c'était un message pour eux que la voie, l'accès était, c'est vrai, c'était fermé. Les chérubins gardaient cet accès. Mais ils voyaient que de temps en temps, un sacrificateur avec un sacrifice pouvait passer à travers les chérubins protecteurs et aller vers l'arche. Et tout ça, ça pointe, nous le savons, vers le jour où Jésus lui-même va rouvrir l'accès. Il va rouvrir l'accès vers la présence de Dieu, vers le sanctuaire, vers le paradis. Et lui-même, il a littéralement pris des ronces et des épines sur lui. Vous connaissez que Jésus a été couronné d'épines. Ça faisait partie de la malédiction, de la crucifixion qu'il a subie à notre place. Lui-même, il a pris des ronces et des épines sur lui. Il a sué, pas que de la sueur, mais du sang dans le jardin d'Éden. C'était l'angoisse, le travail de son âme pour nous sauver. Alors, vous voyez, Jésus, il a travaillé pour gagner notre salut. Ce n'est pas à nous d'œuvrer, ce n'est pas à nous de travailler, ce n'est pas par une religion, ce n'est pas par un travail professionnel que nous pouvons nous donner une sécurité éternelle. C'est parce que Jésus a travaillé à notre place. Et à la croix, il pardonne nos péchés, il fait ce travail-là et il restaure notre accès, il restaure notre relation avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu est content de nous redonner accès à l'arbre de vie. Parce que là, vivre éternellement dans un état réparé, dans un état restauré, ça c'est merveilleux. Donc il fallait que Jésus règle le problème de notre séparation avec Dieu, ce qu'il a fait à la croix. Et maintenant, la voie est ouverte et les croyants ont accès à l'arbre de vie. C'est ainsi que termine la Bible, l'Apocalypse, les derniers chapitres, remettre l'arbre de vie et tout le monde qui a accès. Donc vous voyez, ce n'est pas notre salaire, ce n'est pas nos diplômes, ce n'est pas la sécurité au travail qui nous sauve, qui nous ramène au paradis, c'est Jésus. Et tout l'Ancien Testament pointait vers ce Jésus qui allait faire ça. Et Paul termine tout un chapitre sur la résurrection. Souvent, ces versets que nous lisons à Pâques, mais en 1 Corinthiens 15, il défend la résurrection, il défend la doctrine de la résurrection. Et le dernier verset de chapitre 15, 1 Corinthiens 15, il dit « Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Là, il parle principalement du ministère chrétien, mais je pense qu'on peut élargir à tout travail. Puisque Jésus est ressuscité, puisque la résurrection arrive, puisque un jour nous aurons accès à l'arbre de vie, votre travail n'est pas en vain ici-bas. C'est vrai que si vous faites le bilan de vos activités professionnelles, de votre vocation dans la vie, vous serez probablement insatisfait de ce que vous avez réussi à produire. Il y a toujours des pépins, il y a toujours des conflits au travail, il y a toujours des bugs informatiques, il y a toujours un problème. Et donc, si vous faites le bilan de votre vie, vous êtes peut-être insatisfait, vous aimeriez être un meilleur artisan, un meilleur secrétaire, un meilleur banquier, vous aimeriez que les choses se passent mieux. Mais ce verset dit qu'à la résurrection, nous allons hériter d'un monde parfait, nous allons retrouver le paradis perdu, et ça veut dire que tout ce que nous faisons ici-bas n'est pas en vain. Parce que Dieu va transformer nos corps et notre monde. Et un jour, on verra un monde actif, un monde productif, un monde travailleur qui est parfait, où tout le monde s'entend, tout le monde s'aime, tout le monde se sert, tout le monde est efficace. Et d'avoir travaillé ici-bas, quelque part, Dieu va nous donner ce cadeau, ce don un jour de dire, voilà, tout ce que vous avez fait, ce n'était pas en vain, parce que vous l'avez fait pour moi. Et maintenant, je vous montre l'état réussi, et vous allez pouvoir goûter ce que cela aurait été d'être comme Adam dans un monde parfait. Alors, bon courage pour demain matin. Retour au boulot, c'est la fin des vacances pour certains, pour les élèves, les étudiants, vous allez reprendre les études. Pensez à toutes ces choses, toutes ces listes que nous avons vues tout à l'heure, ce sont des manières de servir Dieu au travail. Et en fonction de votre métier, en fonction de votre entourage, en fonction de vos collègues, peut-être l'un ou l'autre peut vous inspirer à servir Dieu au travail.